Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Dienaba Diop, porte-parole du Parti Socialiste, adjointe au maire des Mureaux. Bonsoir.
Bonsoir Loïc Barrière.
Alors Dienaba Diop, Emmanuel Macron n'a pas obtenu la majorité absolue, il a reconduit sa première ministre qu'il a chargée de former un nouveau gouvernement. Comment réagissez-vous à sa proposition consistant à bâtir une majorité d'action avec les partis qui le souhaitent, des Républicains au PCF, en excluant la France Insoumise et le RN ?
Eh bien écoutez, première chose, je crois que Emmanuel Macron n'a pas saisi le message qui lui a été envoyé lors de ces élections législatives, c'est-à-dire que les Françaises et les Français n'ont pas souhaité lui donner une majorité absolue, donc ça veut dire qu'il y a un rejet de son projet. Il ne peut pas proposer justement une coalition comme cela, il faut un programme partagé. Et pour ça, il faut pouvoir discuter avec les différentes parties, comme nous l'avons fait lorsque la gauche a fait l'union et qu'elle a créé la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Moi, je suis un petit peu estomaquée par cette stratégie qui est celle de notre président de la République, qui continue à nier l'évidence, c'est-à-dire qu'il y a une défiance des Françaises et des Français, qu'il n'a pas été élu pour son programme, mais qu'il a bien été élu pour justement barrer la route au Rassemblement national et pour éviter, on a voté contre Marine Le Pen, en tout cas en grande majorité pour le peuple de gauche, on n'a pas voté pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il renvoie deux à dos de manière extrêmement dangereuse le RN et la France Insoumise. J'ai certes des divergences avec la France Insoumise, mais c'est un de nos partenaires. Nous avons choisi de faire l'union de la gauche et on ne peut pas classer sur la même ligne de départ le mouvement de la France Insoumise et celui du Rassemblement National. Moi, je pense que ce type de choses est dangereux et que nous avons ici un temps qui est un peu un temps inédit où justement Emmanuel Macron et sa majorité doivent être clairs sur ce qu'ils considèrent comme étant des partis républicains. Il a quand même commencé par négocier. Beaucoup de voix se sont élevées, dont François Bayrou et d'autres, et même Vincent Le Maire, en disant que finalement, le Rassemblement National était fréquentable. Il a fallu une levée de bouclier pour que ces voix se taisent. Moi, je suis très inquiète de ce qui se passe en ce moment dans notre pays.
Les Français semblent approuver le fait que le président Macron n'ait pas tous les pouvoirs aujourd'hui. Dienaba Diop, ça va permettre à l'Assemblée nationale de jouer un plus grand rôle que sous le quinquennat précédent ?
Eh bien, je crois que tout simplement, cela va permettre à l'Assemblée nationale de jouer son rôle, c'est-à-dire celui de contrôle de l'action du gouvernement, celui aussi de proposition de loi et de faire voter des lois. Il va falloir discuter. Je crois que sur le quinquennat précédent, un des problèmes majeurs était d'avoir réduit cette assemblée à une sorte de chambre d'enregistrement avec des lève-doigts automatiques parce que Emmanuel Macron avait la majorité absolue. Il faut quand même rappeler qu'il bénéficiait de plus de 350 députés, j'ai plus le chiffre en tête, mais le problème que l'on avait à ce moment-là, c'est que il n'avait pas besoin de discuter avec les autres forces d'opposition. Je crois qu'il est important de rappeler à Emmanuel Macron que le rôle du Parlement, c'est effectivement de contrôler l'action du gouvernement, c'est de faire des propositions de loi. Et je crois que aussi cette Assemblée est beaucoup plus conforme à ce que elle est beaucoup plus représentative du peuple français, en tout cas de celles et ceux qui ont choisi de s'exprimer lors de ces dernières législatives.
Dienaba Diop, la NUPES, est-ce que ça a été une bonne idée pour donner plus de force à la gauche ? Est-ce que ça a été une décision gagnante électoralement pour le PS ?
Alors, moi je crois que la NUPES, cette union de la gauche, les Françaises et les Français, en tout cas le peuple de gauche l'appelait de ses voeux. Il n'y a qu'à voir les résultats au soir du premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a bénéficié de ce qu'on appelle communément le vote utile, parce que les Françaises et les Français nous disaient sur le terrain, on n'en peut plus de cette division de la gauche, on ne sait plus pour qui voter, ça n'est plus possible. Donc nous avons écouté, un, le résultat sorti des urnes, deux, les appels que nous avions depuis des mois et des mois. Nous, nous l'avons toujours appelé de nos voeux avec notre premier secrétaire Olivier Faure au Parti Socialiste. Ça s'est réalisé au moment de ce premier tour de la présidentielle. Donc je crois que on ne peut que se réjouir d'avoir été en capacité de faire cette union. Oui, ça a été, je pense, une formule gagnante, parce qu'on sait très bien que en partant divisé, nous aurions eu beaucoup moins de députés les uns et les autres. Maintenant, pour le Parti Socialiste, oui, c'est une opération gagnante. Je tiens juste à rappeler que sur la mandature précédente, les socialistes étaient au nombre de 25. Aujourd'hui, nous avons 33 députés socialistes encartés, sans compter les apparentés. Donc oui, c'est une formule gagnante, puisque nous avons fait bien mieux, nous avons un groupe qui est supérieur à celui que nous avions sous la précédente mandature, avec un score à la présidentielle, il faut le rappeler, qui était 3 fois moindre qu'en 2017. Donc je crois que c'est important, beaucoup de sortants ont été reconduits, nous avons des nouveaux visages qui arrivent à l'Assemblée nationale, je pense à ma camarade Anna Pic, je pense aussi à Mélanie Thomin qui a battu Richard Ferrand, à Jérôme Guedj qui a battu Amélie de Montchalin. Donc je crois que c'est important, qu'il fallait faire ce choix, c'était un pari fou qu'a fait Olivier Faure, notre premier secrétaire, il a été soutenu par la majorité de notre direction nationale et des représentants du Conseil national, et je pense que c'est un pari gagnant.
Et les dirigeants du Parti Socialiste qui se sont présentés sans l'aval de la NUPES, qu'est-ce qui va leur arriver, je pense, à tous ces candidats socialistes dissidents qui n'ont pas été élus ?
Eh bien, pour les candidats dissidents qui n'ont pas été élus, malheureusement, les statuts de notre parti sont extrêmement clairs. Toute personne qui se présente contre un candidat qui est un candidat socialiste ou qui est soutenu officiellement par un candidat socialiste, donc est un dissident et réputé comme étant justement ne plus appartenir à notre formation politique. C'est dans nos statuts, et celles et ceux qui ont fait le choix de se porter candidat en dissidence en connaissaient déjà les conséquences.
Dienaba Diop, avant les débats du futur projet de loi sur le pouvoir d'achat, Bruno Le Maire alerte sur le niveau d'endettement de la France. Est-ce que les finances publiques laissent assez de marge au gouvernement pour aider les Français les plus en difficulté? En clair, est-ce qu'on peut poursuivre le quoi qu'il en coûte, notamment pour les Français les plus fragiles?
Eh bien, vous savez, nous le disons, que ce soit au Parti Socialiste, mais aussi dans le cadre de la nouvelle Union écologique et sociale, populaire et sociale, on l'a dit, il y a urgence à aider celles et ceux qui sont les plus démunis. C'est vrai que la dette a augmenté, que nous avons fait, le gouvernement a fait le choix du quoi qu'il en coûte, parce que dans cette période de pandémie, il y avait urgence à aider celles et ceux qui étaient les plus fragiles, mais ce gouvernement continue à faire le choix, par exemple, de ne pas aller taxer les plus riches. Il n'a toujours pas rétabli l'ISF. Il n'a toujours pas choisi de taxer, par exemple, Total Energy, qui a fait des bénéfices records pour pouvoir participer à l'effort. Nous, c'est ce que nous disons à gauche. Nous disons, nous pouvons aider celles et ceux qui en ont le plus besoin en augmentant les salaires, c'est-à-dire qu'en mettant un SMIC à 1 500 euros, nous pouvons le faire aussi en travaillant sur une allocation d'autonomie pour nos jeunes étudiants, plutôt que de les voir faire la queue au moment de, on l'a vu pendant la pandémie, à des soupes populaires, parce qu'on sait que nos étudiants font partie des populations les plus précarisées et les plus pauvres. Moi, je crois qu'un autre chemin est possible. Nous l'avons démontré lors justement de la présentation de notre programme partagé. Simplement, ce gouvernement s'entête à ne pas vouloir justement mettre à contribution celles et ceux qui sont les plus riches. Il continue d'être le gouvernement des plus riches, et ça, nous nous y opposons. Et je crois que la configuration de cette nouvelle Assemblée permettra de mettre le gouvernement face à ses responsabilités, de savoir quels sont les choix qu'ils vont faire. Est-ce qu'on va continuer à favoriser les plus riches, ou est-ce que enfin on va procéder à une réelle redistribution et un réel rééquilibrage en distribuant les richesses qui ont été été justement produite pendant ce laps de temps et notamment durant le quinquennat précédent.
Alors Diana Badiop, vous avez mentionné justement Total Energy, les patrons de ce groupe énergétique, mais aussi les patrons d'EDF et Engie ont appelé les Français à réduire leur consommation de carburant, de pétrole, d'électricité et de gaz dès maintenant pour éviter une pénurie cet hiver. Est-ce que c'est un appel qui vous inquiète ?
C'est inquiétant parce qu'en fait, c'est aussi un aveu qu'ils ne seront pas en capacité de pouvoir fournir l'énergie dont nos concitoyennes et nos concitoyens ont besoin. J'entends la situation, le contexte, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes dans un contexte de guerre en Ukraine avec du gaz russe qui va venir à manquer, entre autres. Donc je crois que, oui, les Françaises et les Français vont faire preuve de responsabilité et comme ils l'ont fait d'ailleurs notamment pendant la crise de la pandémie, on sait très bien que lorsqu'il faut le faire, les Françaises et les Français sont en capacité de prendre la responsabilité. Mais moi, ce que je dis aussi, c'est que l'effort ne doit pas porter que sur les usagers, il faut qu'il porte aussi sur les grandes sociétés, les grandes entreprises, etc. Il va falloir aussi que les premières montrent l'exemple et qu'elles soient aussi vertueuses dans leur utilisation de l'électricité et des énergies, de la même manière que l'État, les grandes collectivités, etc., doivent aussi montrer l'exemple. Tout le monde doit faire un effort dans un temps qui va nous demander d'être beaucoup plus contraint.
Diana Badiop, il y a près de 90 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Ça ne fait pas l'objet de nombreux commentaires, alors que c'est totalement inédit dans l'histoire de la Ve République. Est-ce que l'extrême droite est en train d'être banalisée ? Est-ce que la présence de ces députés du RN préfigure leur arrivée au pouvoir lors de la prochaine présidentielle ?
Eh bien, en tout cas, je ne sais pas si ça ne fait pas l'objet de beaucoup de commentaires, mais en tout cas, que ce soit moi ou que ce soit de nombreux justement représentants du Parti Socialiste, à commencer par Olivier Faure, mais aussi quasiment tous les représentants de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, nous avons pointé du doigt, nous avons dit avec force et vigueur au soir des résultats du second tour qu'il y avait une situation inédite qui était une situation extrêmement préoccupante, c'est l'arrivée de 89 députés du Rassemblement National dans notre Assemblée. Et je crois qu'il y a chez la majorité présidentielle, chez le président, une sorte de déni parce que on n'a quasiment pas entendu justement de commentaires, d'inquiétudes quant à l'entrée massive, parce que c'est la première fois, vous l'avez redit, et je crois que une des raisons pour lesquelles ils arrivent massivement justement à l'Assemblée nationale, c'est que un, la stratégie vis-à-vis du Rassemblement national, de la majorité présidentielle et du président de la République lui-même a été une stratégie dangereuse. Banaliser à ce point le Rassemblement national, dire que entre des duels entre le Rassemblement national et la France insoumise, il faut regarder au cas par cas, c'est honteux, ou des candidats justement de la NUPES, ils n'ont même pas dit LFI, des candidats de la NUPES, il faut regarder au cas par cas, c'est honteux, c'est manquer de respect à toutes ces personnes du peuple de gauche qui, au soir du second tour des présidentielles, ont voté non pas pour Emmanuel Macron, mais pour faire barrage au Rassemblement national. Il s'est érigé comme étant le rempart. Eh bien, aujourd'hui, c'est une passerelle. Jamais dans notre République, nous n'avons vu autant de députés de l'extrême droite rentrer au sein de l'Assemblée nationale. Les autres exemples européens nous disent que lorsque, justement, l'extrême droite commence à arriver à des postes à responsabilité, notamment à l'Assemblée nationale, c'est que notre démocratie est malade. Eh bien, je crois que le président de la République, que la majorité présidentielle, doit prendre pleinement ses responsabilités sur cette situation. Nous l'enjoignons à cesser de mettre sur le même plan, justement, le RN et LFI. Il faut absolument que cela cesse, parce que, ce faisant, on achève de banaliser justement l'extrême droite. Et oui, je crois que Emmanuel Macron et sa majorité, dans cette posture, préparent l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans notre pays. Et ça, c'est intolérable.
Diana Badiop, depuis ce week-end, il y a une forte émotion en France après la remise en question du droit à l'avortement aux États-Unis. Est-ce que ce recul pour les libertés des femmes aux États-Unis est une menace aussi pour un pays comme la France ?
Vous savez, Loïc Barrière, Simone de Beauvoir avait dit « il suffira d'une crise pour que le droit des femmes soit, les droits des femmes soient justement remis en cause ». Aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que l'extrême droite, même lorsqu'elle a quitté le pouvoir, continue de faire des ravages. Il faut rappeler que ces membres de la Cour suprême aux États-Unis ont été nommés par Donald Trump et que c'est encore cette vision conservatrice, rétrograde et obscurantiste qui fait reculer sans précédent le droit à l'avortement, le droit des femmes à justement disposer de leur corps et à prendre leurs propres décisions aux États-Unis. Moi, je crois qu'on doit prendre avec beaucoup d'inquiétude et de gravité ce qui se passe aux États-Unis et se prémunir de ce type de recul en inscrivant dans la Constitution le droit inaliénable aux femmes de pouvoir disposer de leur corps et de pouvoir décider par elles-mêmes.
Faire entrer Gisèle Halimi au Panthéon serait un beau message dans le contexte actuel, Diana Badiop.
Évidemment, d'ailleurs Olivier Faure, notre premier secrétaire, l'a appelé de ses voeux. Ça fait déjà plusieurs moments, plusieurs temps que nous appelons à ce que Gisèle Halimi, qui est cette femme forte, qui est un des grands symboles des combats féministes et notamment concernant l'IVG, il faut qu'elle entre au Panthéon et je crois que c'est un message fort, un symbole fort qu'on doit adresser à toutes les femmes et notamment aux Françaises en disant que ici, en France, justement, elles seront protégées, qu'elles garderont le droit de pouvoir décider par elles-mêmes et à disposer de leur corps comme elles le souhaitent.
Diana Badiop, pour la première fois, une femme est première ministre, une autre femme, Yaël Braun-Pivet, est présidente de l'Assemblée nationale. C'est une bonne nouvelle pour vous, même si vous n'êtes pas de la même sensibilité politique ?
Oui, c'est une bonne nouvelle parce que effectivement, quand on donne de la visibilité aux femmes et qu'on leur donne des postes à responsabilité, on leur donne des responsabilités, notamment d'un point de vue politique et sur la République, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, moi, ce qui me navre, c'est que ces femmes ne pourront pas faire autre chose que d'appliquer la politique voulue par le président de la République. Et donc, malheureusement, elles ne pourront pas, on le voit lorsqu'on voit ce qui se passe avec, par exemple, Monsieur Abad, qui reste en place. Enfin, moi, je suis navrée, mais nommer une femme première ministre, si c'est pour qu'elle continue à ne pas écouter la voix des femmes qui s'élèvent et à ne pas être justement un rempart lorsque il y a des soupçons de violence sexuelle sur un membre de son gouvernement. Excusez-moi, mais ça ressemble plutôt à une grande cause toujours. Moi, je crois qu'on ne peut pas cautionner ce genre de choses. Moi, je suis pour la présomption d'innocence. Il faut que la justice puisse faire son travail. Il y a une plainte qui vient d'être déposée. Je crois que, sincèrement, M. Abad devrait être écarté le temps de l'enquête, au moins de ses responsabilités actuelles.
Merci Diana Badiop. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti Socialiste et adjointe au maire des Mureaux. Bonsoir.
Bonsoir Loïc Barrière, merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.